Chapitre 27. Je désirais de plus en plus continuer ma route, mais Roger n'y tenait pas. Il avait retrouvé une femme chez qui il passait la plus grande partie de son temps, et il me demandait chaque jour d'attendre le lendemain. Et moi, naïvement, je me disais que si c'était vrai, ce serait trop bête, pour 24 heures, de ne pas l'attendre. Je passais mes journées, la plupart du temps, seul chez cet oncle que je ne connaissais pas, qui n'avait aucune raison de me garder chez lui puisqu'il ne le faisait ni par patriotisme, ni par bonté, ni parce que j'étais un ami de son neveu dont il ne se souciait pas. Il m'arrivait parfois de sortir, mais vêtu comme je l'étais, j'avais l'impression que tout le monde me regardait et je n'étais pas rassuré. Décidément, je ne comprenais pas le caractère de ce monsieur Roger. Le premier mouvement des gens qui secourent un malheureux est, il me semble, de lui donner une certaine apparence, de faire en sorte qu'ils puissent se présenter n'importe où, ne serait-ce que dans leur propre intérêt à eux, vis-à-vis des voisins, des concierges, des domestiques. Pour le reste, il est naturel qu'on prenne son temps. Si j'avais dit à M. Roger que le pardessus qu'il m'avait donné, la pelisse, comme il disait, personne d'autre que moi n'aurait voulu la porter, il eût levé les bras au ciel. Comment ? La pelisse de mon père ? Je passais donc mes journées à la fenêtre. Un jour, j'aperçus deux hommes dont l'aspect me frappa, moi qui, depuis mon évasion, étais devenu très fort pour tirer des déductions de la façon dont les gens étaient habillés. Ces deux hommes, comme Roger et moi, avaient l'air d'avoir été habillés dans des conditions un peu spéciales. Ils étaient vêtus de costumes qui semblaient avoir exactement, quoique de teintes différentes, la même origine et le même âge, des costumes bien coupés, mais sur un modèle et non sur leur possesseur, avec de faux plis et cet aspect de vêtements qu'on donne à des naufragés. Ils avaient des chapeaux neufs, des souliers de cuir jaune, neufs également. Ils s'arrêtèrent devant la maison, levèrent la tête vers la fenêtre où je me tenais. Mon sang se glaça. Je venais d'avoir l'impression que ces deux hommes étaient des militaires allemands en civil. Même gaucherie dans le neuf, même goût dans ce qui fait jeune. Je les observais derrière le rideau. Tout à coup, je les vis traverser la rue. Cette fois, je ne doutais plus qu'ils vinssent me chercher. Je dois dire que j'avais envisagé cette éventualité dès mon arrivée, et que je m'étais dit que, plutôt que de me laisser prendre, je sauterais par la fenêtre de la chambre de M. Roger. Elle donnait sur la cour. Au lieu de 3 étages, cela n'en faisait que 2, car il y avait dans cette cour un petit garage d'un étage. C'était une bonne hauteur quand même, mais j'avais toujours eu l'impression qu'en s'y prenant bien, c'était une hauteur qu'un homme normal, souple, jeune, pouvait sauter sans risquer de se casser les jambes. La seule chose qui m'inquiétait, c'était le degré de résistance du toit du garage ainsi que le bruit que je ferais en tombant. Et si je serais en mesure de me relever immédiatement, car pour réussir, il fallait que je disparusse avant que le bruit de ma chute attirât l'attention. Soudain, la sonnette retentit. Je courus dans la chambre de M. Roger. Si on me demandait, la domestique irait voir partout, sauf dans cette chambre où elle ne pourrait soupçonner que je me trouvais, et elle dirait que j'étais sorti. Si les Allemands fouillaient l'appartement, je les entendrais bien. Le temps qu'ils défoncent la porte de cette chambre, j'aurais sauté. Je m'enfermai à clé. Je l'ôtai et l'oreille collée au trou de la serrure, j'écoutais. J'entendis des bruits de voix. Les Allemands entrèrent au salon. Peut-être attendaient-ils mon retour. J'envisageai une seconde de me sauver par la porte d'entrée, mais je ne savais pas si le salon était ouvert ou fermé. Soudain, j'entendis un nouveau coup de sonnette, puis la voix de M. Roger. Elle me fit un bien immense. Il parlait aux 2 visiteurs. Puis je ne l'entendis plus, et un bruit de pas se rapprocha. Quelqu'un essayait d'ouvrir la porte. Je retins mon souffle. Était-ce M. Roger ou les Allemands ? C'était M. Roger. Il demandait maintenant qui avait fermé la porte. C'était incroyable. Comment se faisait-il que cette porte était fermée ? Qui était dans la chambre ? Je ne bougeais pas. J'avais le sentiment que toute la maison savait que j'étais enfermé dans cette pièce, et que les visiteurs, si c'était des policiers, allaient m'arrêter par la faute de M. Roger. J'avais perdu toute présence d'esprit. Au lieu d'ouvrir et de faire signe à M. Roger de se taire, je continue à garder le silence. J'allais à la fenêtre, mais au moment de sauter, Je me dis que c'était ridicule de risquer de me casser les membres s'il n'y avait pas de danger. Monsieur Roger criait toujours dans l'appartement. Il m'a paru qu'il n'eût tout de même pas fait tant de bruit, si les Allemands avaient été là, qu'il eût compris que je m'étais caché. J'ouvris. Il revenait avec la domestique pour essayer de forcer la porte. Quand il m'aperçut dans la chambre, rien n'avait été rangé, les tiroirs étaient ouverts, il demeura muet d'étonnement. « Qu'est-ce que vous faites là ? » dit-il enfin sur le ton d'un homme qui surprend un voleur. Je fis un geste vers le salon, laissant entendre que je ne savais pas qui étaient ces gens. « Qu'est-ce que vous faites là ? » répéta-t-il. Je lui montrai la fenêtre. « Je comptais fuir par là. » Je sentis qu'il pensait que je me moquais de lui. « Comment sauter 3 étages ?» Je lui dis que j'avais été pris de peur. Je le lui avais caché le plus longtemps possible car j'en avais honte. Maintenant, je voulais me justifier. À ma grande surprise, l'excuse de la peur ne servit à rien. Il existe parallèlement aux qualités que la police met en œuvre pour arrêter les criminels une certaine maladresse administrative. On a peine à imaginer, par exemple, qu'en même temps que les inspecteurs déploient tant d'intelligence et savent si bien reconnaître au seul son de votre voix si vous dites la vérité ou si vous mentez, qu'ils soient tenus d'exécuter des ordres qui ruinent leurs efforts, comme par exemple de se présenter prématurément au domicile d'une personne qu'ils recherchent. C'était ce qui venait d'arriver. Dès qu'il fut calmé, M. Roger m'annonça d'un air mystérieux qu'il avait à me parler. Il me conduisit dans une autre pièce, et comme s'il ne suffisait pas de fermer la porte pour être à l'abri, il pria la domestique d'aller faire une course. Il aimait à grossir les dangers que les autres couraient, et ses simagrées ne me surprirent pas. Quand nous fûmes seuls, il prit encore de nouvelles précautions. Il me révéla enfin que les 2 visiteurs étaient des inspecteurs de police belges. Ils étaient venus lui demander s'il avait eu dernièrement des nouvelles de Roger. Ils n'avaient rien dit d'autre, sans doute pour ne pas éveiller de méfiance, mais certainement ils en savaient beaucoup plus qu'ils ne le laissaient paraître. Je sentis tout à coup une lourdeur dans les cuisses. Puis cette seule partie de mon corps se mit à trembler. Il n'était pas question de moi, et pourtant j'avais l'impression que j'étais perdu. Je n'avais qu'une pensée, voir Roger, le prévenir. Je ne sais pourquoi, mais je sentais qu'il me redonnerait courage, qu'il prendrait les choses beaucoup mieux que moi. Il m'avait dit que si jamais un événement inattendu se produisait, d'aller l'avertir. 10 minutes s'étaient déjà écoulées lorsque je perdis la tête. Il me semblait que j'étais entouré de flammes et que je devais, afin de me sauver, régler une foule de questions de détail. J'étais en pantoufles. Je n'avais pas d'argent. Je m'approchais de la fenêtre. Les 2 policiers faisaient toujours les 100 pas devant la maison. Ils s'arrêtaient parfois, se retournaient. Je m'habillais à la hâte. Les pensées les plus folles me vinrent à l'esprit. À la seule perspective qu'à cause de mon maudit accoutrement, les inspecteurs, en me voyant sortir, me confondraient avec Roger, je me mis à trembler. Je pouvais leur montrer mes papiers, mais n'étais-je pas recherché également? Ils n'avaient peut-être pas parlé de moi simplement par oubli ou par négligence, car ce que nous n'oublierons pas, les autres peuvent très bien ne pas y accorder la même importance. Au retour de la domestique, je l'interrogeais pour savoir ce qu'on lui avait demandé exactement. C'était bien de Roger uniquement qu'il s'était agi. J'hésitais à sortir. Puis j'eus conscience qu'il eût été criminel de ma part, à cause d'un risque aléatoire, de ne pas avertir Roger. Je ne réussissais cependant pas à me décider. Une série de nouveaux dangers m'apparut. J'imaginais tout un roman. Ce n'était pas Roger que les policiers recherchaient en réalité, mais le meurtrier des 2 sentinelles. Ils étaient venus ici à tout hasard. Ils avaient fait semblant de ne pas se douter de mon existence, mais au fond, ils ne pensaient qu'à moi. Il eût été invraisemblable que leur visite coïncidât si exactement avec mon arrivée s'ils n'étaient pas au courant de ma présence ici. Comme je devais passer pour un bandit dangereux, ils n'avaient même pas prononcé mon nom. Toutes ces réflexions me faisaient aller et venir dans l'appartement sans raison précise. Puis, j'en discernais le grotesque. Pris pour pris, il valait mieux l'être en agissant noblement, en allant immédiatement prévenir Roger. D'ailleurs, n'étais-je pas victime de mon imagination? N'était-ce pas invraisemblable que la police agît avec tant de ruse? N'était-elle pas la plus forte? N'était-il pas ridicule de me figurer qu'elle luttait avec moi comme si nous étions à armes égales, alors qu'il était si simple, s'il savait que j'étais là, de cerner la maison? En descendant l'escalier, j'eus un vertige. Je pensais que quand on se fait prendre, c'est toujours bêtement, comme ce le serait cette fois-ci si j'étais pris. Je remontais, je retournais à la fenêtre, avec l'espoir que les policiers seraient partis. Ils étaient toujours là. J'avais le sentiment que chaque instant de retard pouvait être fatal à Roger. Que ferais-je si je le voyais tout à coup, au bout de la rue, se dirigeant vers la maison, sans se douter de rien? Lui crierais-je de fuir, quitte à être arrêté à sa place? Je me décidai enfin à sortir. J'avais retrouvé mon sang-froid. Après tout, ma situation n'était pas plus mauvaise qu'avant d'arriver à Bruxelles. En cas de danger, je n'avais qu'à prendre mes jambes à mon cou. Quand on lutte pour sa vie et sa liberté, il ne faut pas se laisser paralyser par les amitiés nouvelles, par les événements journaliers. Je ne devais jamais oublier que j'étais un homme seul, qui ne possédait rien, qui n'était tenu à rien, et qui, dès qu'un danger se présentait, ne devait pas hésiter à tout abandonner, quelque lâche que cela pût paraître sur le moment.